ce qui nous concerne donc le chapitre 4 de Daniel, et moi je le trouve c'est le plus profond de tout le livre de Daniel. Parce que, bon, il y a quelque chose de remarquable, c'est que l'auteur, c'est pas Daniel. C'est pas le prophète Daniel, c'est un grand monarque de l'Antiquité. Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, suivant la façon dont on traduit. Et il est célèbre pour sa puissance. C'est lui qui avait rendu la puissance à l'Empire babylonien. Et il avait notamment fait construire dans la capitale, qu'il avait embellie, fortifiée, de magnifiques jardins suspendus qui sont restés comme l'une des sept merveilles du monde antique. Et donc ce grand monarque du passé a un témoignage pour nous ce matin. Le témoignage de sa conversion. Jean nous a porté un petit témoignage tout à l'heure. Et là, on a le témoignage de la rencontre de cet homme avec le Très-Haut. Quel rapport avec notre situation aujourd'hui, direz-vous? Ben, le titre que j'ai donné ce matin au message, c'est « D'une folie à l'autre ». D'une folie à l'autre. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans ce texte? On va lire l'histoire qui est... Le texte est assez long. C'est un homme qui devait aimer écrire, aimer bavarder. Alors, voici. Je vais découper en sections et faire un petit commentaire chaque fois. L'introduction. Donc, dans certaines versions de Bible, vous commencerez au chapitre 3, verset 31. Il y a des fois des décalages. Le roi Nebuchadnezzar adresse ce message aux hommes de tout peuple, toute nation, toute langue habitant tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu très haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands et que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Donc, cet homme qui se présente ainsi a vécu 6 siècles avant Jésus-Christ. Il a tenu, conquis et tenu d'une main de fer un immense empire, toute la Mésopotamie, plus il était avancé jusqu'aux portes de l'Égypte. À l'époque, c'était considérable. Jérémie, le prophète, avait déclaré ceci aux habitants de Jérusalem qui voyaient arriver le conquérant Nebuchadnezzar. Jérémie a écrit ceci. Dieu parlait ainsi. Dieu dit, maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi des animaux des champs pour qu'il lui soit assujetti. Et dans les faits, Nebuchadnezzar exerçait un pouvoir absolu. On a quelques exemples et on a vu il y a quelques semaines ce en quoi cela consistait. Un pouvoir absolu devant lequel notre roi Louis XIV semble un gamin. Hein. Continuons notre récit. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication de ce rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour lequel aucun secret n'est trop difficile. Donne-moi l'explication de la vision que j'ai eue en rêve. Voici quelle était cette vision de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau, ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici que j'ai vu un veilleur, un saint, être descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez son feuillage, dispersez ses fruits, que la terre avec ses racines, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. Son cœur d'homme lui sera enlevé, un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 temps passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qui peut y faire accéder le plus bas des hommes. Afin que tous les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il désire, et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. L'explication du rêve maintenant. Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. » Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis, son explication pour tes adversaires. » Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui est devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel, qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau, les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages, dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel. Ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages. Et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Qu'il la donne à qui il désire. L'ordre de laisser le tronc avec ses racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue. Quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés, en pratiquant la justice, à tes fautes, en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Et le rêve s'est accompli. Tout cela devint la réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama : « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera comme un bœuf de l'herbe à manger. 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il désire. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il désire. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que les cheveux poussent comme des plumes des aigles. Rasta donc, on dirait aujourd'hui. Et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Le grand roi se prenait pour un bœuf. Bon, nos médecins ont donné un nom à cette maladie, hein, c'est la zoanthropie. Il couchait dehors, il broutait de l'herbe. Quand on dit que la rosée le couvrait, c'est qu'il dormait à la belle étoile tout le temps. Il se prenait pour un bœuf, et dans l'Antiquité, vous savez, il y avait beaucoup d'idoles qui étaient représentées par des bœufs. Et je crois qu'au Louvre, il y a des grandes statues là de l'Empire assyrien où on voit un bœuf avec une tête de monarque et avec des ailes. Et voilà, notre Nebuchadnezzar était devenu, se prenait pour un bœuf, pour un vrai bœuf qui broutait l'herbe. La conversion du roi maintenant. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut. J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement et dont la domination est éternelle et dont les royautés subsistent de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, ne sont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec le corps céleste, avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers, mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Et il conclut donc, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi des ciels. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Vous direz peut-être, elle est vraie cette histoire ? Bon. On ne va pas discuter maintenant de la fiabilité du texte de Daniel, qui est un texte qui est violemment attaqué par les adversaires de la Bible. On verra ça un petit peu dimanche prochain, Dieu voulant. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Dieu, ses élites et nous. Dieu, ses élites et nous. Quelques réflexions. On voit dans ce texte que les élites sont diverses. On est dans toute cette réflexion, vous savez, sur la question du complotisme qu'on vit de façon contemporaine maintenant. Dieu avait élevé Nebuchadnezzar en lui donnant un empire. Dieu avait aussi élevé Daniel en faisant de lui un haut fonctionnaire avec une intelligence et une sagesse extraordinaire. L'un incarne le pouvoir absolu, arbitraire, égoïste, un homme imbu de lui-même, et l'autre incarne la sagesse, la science et la soumission à Dieu. Mais Dieu aime et veut sauver l'un comme l'autre, l'un comme l'autre. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de défiance contre nos élites. Ce sont tous des pourris. On n'aime pas les hauts fonctionnaires. Voilà, ce sont des gens de l'ombre qui font n'importe quoi, qui comprennent rien. Daniel était l'un d'eux. Daniel était l'un d'eux. Alors, toutes les élites ne sont pas à mettre dans le même sac. Les élites sont fragiles, tels des colosses aux pieds d'argile. Au moment de sa gloire, Nebuchadnezzar semblait intouchable. Qui pouvait lui parler? Qui pouvait lui dire quoi que ce soit? Et pourtant, il a été effrayé, terrorisé par quoi? Par un rêve. Un simple rêve l'a mis dans la panique complète. Ce roi qui était un monarque absolu. Il était comme un enfant qui vient de faire un cauchemar. Alors, ne surestimons pas la force de nos élites. Ce sont des hommes de la même nature que nous. Fragiles. Si je pouvais ajouter une anecdote contemporaine qui est connue de tous, le président François Mitterrand, quand il voulait être candidat, il se voyait âgé, il avait fait la promesse de faire pas comme ses prédécesseurs. Quand je serai au pouvoir, je publierai tous les mois ou tous les 6 mois, je sais pas quand, un état complet de mon bilan de santé pour que les Français sachent. Et il se croyait sûr de lui. Et l'année de son élection, il a eu son cancer s'est déclenché. Et là, il a dit à son médecin, secret d'état, faut pas en parler surtout. Un homme vulnérable. Les élites sont vulnérables. Elles sont fragiles. Ce sont des colosses aux pieds d'argile. Les élites sont managées par Dieu. Dieu a parlé à 4 reprises à Nebuchadnezzar. 4 fois, il s'est adressé à lui. Une première fois, c'était quand Daniel et ses amis se sont présentés à lui. Ils sortaient de l'école. Et c'était les plus brillants des élèves qu'il avait dans son royaume. Une deuxième fois, Daniel avait été le seul qui avait pu expliquer le rêve du roi. Et là, le roi l'avait établi chef de toutes les sages. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il savait que Daniel connaissait le Dieu saint et qu'il avait en lui l'esprit du Dieu saint. Il savait toutes ces choses-là, deuxième fois, mais ça n'a pas empêché de construire une belle statue. Et d'imposer son adoration. Et là, Dieu lui a parlé une troisième fois. Un petit peu plus sévèrement que ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Et là, cette fois-ci, c'était clairement Dieu le secoue. Mais le roi, dès que le temps est passé, lui, il a rien changé. Il a continué dans sa trajectoire. Dieu n'a pas été aussi patient avec son successeur. Le minable Belshazzar, compter, peser, diviser, vous connaissez cette histoire. Cet homme était censé savoir ce qui était arrivé au grand roi Nebuchadnezzar. Il était censé savoir. Et on peut comprendre tout ça que Dieu demande des comptes, qu'il corrige ceux en qui il confie le pouvoir, et que cela a valeur d'exemple. Cela a valeur d'exemple pour tous. Une autre illustration contemporaine, il y a quelques années, on avait notre très francophone DSK, vous savez, qui était dans un poste de responsabilité, président du FMI, un homme puissant, un homme brillant, qui d'un jour à l'autre a été plongé très bas. La façon dont Dieu a sanctionné son inconduite sexuelle a servi d'exemple aux pervers du monde entier. Dieu a parlé ce jour-là en abaissant cet homme en l'espace de quelques heures. Disparu de la scène. À travers les élites, Dieu parle à la multitude. Autre remarque, la richesse et l'exercice du pouvoir ne sont pas incompatibles avec la piété. Là, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce verset, hein, je dois dire. Quand il est dit, mes conseillers, mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé, j'ai été rétabli par mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Moi, j'aurais aimé que, ouais, il se convertit, mais voilà, il ne revient pas au pouvoir. Pourtant, notre texte est sans ambiguïté. Dieu, Nabucodonosor, après sa conversion, est devenu plus grand même qu'avant. La richesse et l'exercice de pouvoir ne sont pas incompatibles avec la piété. Il est bien probable que 6 siècles plus tard, j'avais l'image, en réfléchissant tout ça, de la, vous savez, la pauvre veuve qui met les quelques centimes dans le tronc de l'offrande à Jérusalem. Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Et que ces deux personnages vont se retrouver dans le ciel. Qu'est-ce que Dieu attend des autorités? Verset 37. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes fautes en ayant la compassion envers les malheureux. La responsabilité des autorités est s'assurer de la justice civile et sociale et avoir une attention particulière pour les pauvres et pour les malheureux. Alors moi j'en tire une conclusion, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. C'est une opinion que j'exprime. Dans la gestion de la crise sanitaire, la motivation annoncée par nos autorités a été celle-là. Il faut protéger les plus faibles. Il faut protéger les plus faibles. C'était assez inédit. Et aujourd'hui, ils disent, à vue humaine, la meilleure solution, c'est de se faire vacciner. Et pour toutes ces décisions, ils ont des comptes à rendre devant la justice des hommes et devant le Dieu très haut qui leur a accordé le pouvoir. Alors, bien sûr, on peut écouter d'autres discours, d'autres personnes, mais qui ne sont responsables de rien. On dirait, c'est péjoratif de dire irresponsables, mais c'est bien ça. Elles seront jamais poursuivies et mises en prison par rapport à ce qu'elles proclament et qu'elles affirment. Le virus est venu d'un grand pays dont les autorités professent l'athéisme. Et le vaccin est venu d'un grand pays dont les autorités font allégeance à la Bible. Certains agissent par peur du virus. D'autres agissent par peur du vaccin. Nous devons agir avec la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui doit être notre guide. Et c'est pour cette raison que je me suis fait vacciner moi-même, dès que j'ai pu, au mois de mai, c'était avec AstraZeneca. Je l'ai fait en me confiant en Dieu. C'était pour moi un acte de foi, mais ça c'est mon histoire personnelle. Il y a l'essentiel du texte, bien sûr, n'est pas là. Il y a deux grandes leçons à retenir. La première leçon, c'est le jeune Élie qui parlait à Job, il disait ça, il y a encore plus de temps. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, disait-il à Job, et on n'y prend pas garde. Job 33, 14. Il y a dans chaque être humain une dimension, dans chaque être femme, dans chaque homme une dimension, un Nebuchadnezzar qui se cache. Nous sommes des rois qui dominons sur notre monde. Alors notre monde, il est plus ou moins grand. Notre sphère d'autorité est plus ou moins vaste. Mais là, nous exerçons notre pouvoir. Nous y faisons ce qui nous plaît. Et quoi qu'on s'en défende, bien souvent, nous agissons pour notre propre satisfaction et pour notre propre gloire. Le drame et notre malheur, c'est que nous n'écoutons rien. Nous n'écoutons rien. On continue tous dans notre folie. Et quelque part, c'est à pleurer. Qui peut nous arrêter? Qui peut nous arrêter? Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il a fait grâce à Nebuchadnezzar, ce grand païen. Et il nous fera grâce aussi à nous, comme au roi, si comme lui, nous levons les yeux vers le ciel. Si nous levons les yeux vers le ciel. Une première leçon. Une deuxième leçon, la leçon essentielle, je pense. Nebuchadnezzar n'a pas eu le privilège que nous avons. Il n'a pas entendu l'évangile de son temps, mais il a rendu témoignage de la chose fondamentale qu'il a compris. Dieu règne. C'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le vrai roi, le Seigneur des Seigneurs. Et c'est lui seul qui fait ce qui lui plaît. Daniel, alors, bon, vous savez, ses dernières paroles, hein, au roi, c'est celle-ci. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur, la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Daniel le faisait 3 fois par jour, devant la fenêtre ouverte, là où il habitait. Et nous qui avons tellement plus de privilèges que les Nebuchadnezzar, qui avons tellement plus de la connaissance du Dieu de Daniel. Alors on peut, nous aussi, chanter les louanges du Très-Haut. On terminera la réflexion sur le complotisme la semaine prochaine. Mais là, on va s'arrêter pour chanter. Ce sera le chapitre 9. Et ce sera le titre « Une semaine pour reconstruire ».« Une semaine pour reconstruire ». C'est bien mystérieux, vous direz, ce titre. Bon, on verra. Alors là, maintenant, je vous propose de chanter, de mettre en pratique tout de suite ce qu'on vient d'apprendre. Louer le Seigneur pour qui il est. Louer le Seigneur pour qui il est. Comme le faisaient le roi Nebuchadnezzar et Daniel. Et quelques chants, je vous propose d'en choisir un. On a « Dieu de gloire, le 136, majesté », on l'a déjà chanté. « Nous te glorifions, roi des rois, le roi dans sa splendeur, merveilleux, si merveilleux. Nul n'est comme toi », on l'a chanté aussi. Alors lequel vous avez envie? « Dieu de gloire, 136. Dieu de gloire, je t'adore ».